Et qui
Alors,
pour vous alors?
la Torah,
Bon,
elle
bonsoir.
parle ici de la situation c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Tout le Sefer Dvarim, c'est une sorte de testament, tout ça, ça a été dit par Moshe Rabbeinu dans les dernières semaines de sa vie. Et donc ici, Moshe Rabbeinu leur dit, bon, maintenant, moi je vais disparaître, mais vous, vous allez entrer en Eretz Israël. Qui t'avoue? T'avoue la Haaretz. Asher Hashem Elokecha noten lecha, quand tu arriveras, tu viendras dans le pays qu'Hashem ton Dieu te donne en héritage, en fait, et que tu t'y installeras, velakachta, alors tu prendras, mais Réchit, des prémices, on va traduire Réchit par prémices, mais Réchit, kol pri ha-adama, de chaque fruit de la terre, asher tavi me'artzecha, tout fruit de la terre que tu vas amener de ton pays, du pays que asher Hashem Elokecha noten lecha, Hachem, ton Dieu, te donne, ce pays qu'Hachem te donne, mais Samta Batene, et tu mettras ces prémices de chaque fruit, tu les mettras dans un panier, Ve Alarta El Hamakom, et tu iras vers le lieu Asher Yifra, Hashem Elokecha, qu'Hashem, ton Dieu, encore une fois, répétez tout le temps, quoi. Le Shaken Shmo Sham a choisi pour faire résider son nom là-bas, dans cet endroit-là. Et alors, donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce Elam Makom, quel Makom est-ce? Eh bien, c'est un Makom, mais c'est assez intéressant parce que c'est un lieu. Mais ce lieu-là, a priori, nous, on aurait tendance à dire, bon, ben, dans le futur, ce sera bien sûr Yerushalayim. Mais avant que Yerushalayim devienne ce lieu, il s'est passé des centaines d'années. Les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël. Il y a eu toute la période des juges, et une grande part, toute la période de Shaoul, toute la période du règne de David, où Yerushalayim n'était pas le lieu en question. Donc ce lieu, il a été Shiloh, il a été à d'autres, quelques endroits qui étaient provisoirement les lieux de la résidence d'Hachem, avant que Hachem décide que on abolit tous les autres lieux, plus aucun lieu ancien n'a le titre de lieu, et le lieu, c'est Yerushalayim. Donc, dans ce lieu, alors, à terme, ce sera Yerushalayim, mais on est en train de parler de quelque chose qu'il faudra faire dès, semble-t-il, que tu seras entré en Eretz Israël, que tu t'y seras installé. Parce que entrer en Eretz Israël, ça implique de faire la guerre. Les Bnei Israël vont devoir faire 7 ans de guerre pour conquérir ce pays. Et une fois qu'ils auront chassé ceux qu'on ne voulait pas garder dans le pays, il a fallu distribuer le territoire d'Eretz Israël à enfin une partie de ce territoire à chaque tribu. On a donné du territoire à chaque tribu. Et dans les tribus, ils ont donné dans les familles, etc. Donc il a fallu organiser. Ça a pris de nouveau 7 ans. Donc, il y a 14 ans pendant lesquels on était dans le précaire, dans le provisoire. Et seulement après, certaines de ces mitzvot vont pouvoir. Donc, ce n'est pas immédiat, c'est. Vous allez entrer, et 14 ans plus tard, ce que je te demande de faire ici, c'est après 14 ans, en tout cas. Alors, tu iras vers ce lieu-là, disons Yerushalayim, fais un saut dans l'histoire et on dit Yerushalayim, qui est le lieu qu'Hachem a choisi pour y résider. Et dans ce lieu, Uvata el Kohen asher yé bayamim ahem. Alors, tu iras, tu t'adresseras, viendras, vers le Cohen qui sera de service à ce moment-là. Alors tout le monde s'arrête sur ce verset. On ne peut pas aller chez le Cohen qui n'était pas en service. On ne peut pas aller chez le Cohen qui a vécu il y a 14, il y a 3 générations. Donc évidemment, je vais aller chez le Cohen qui est en service, qui vivra à ce moment-là. Qu'est-ce que la Torah elle vient me dire ici? Il y aura chez le Cohen qui y aura à ce moment-là. Évidemment, c'est celui-là. Qui ça pourrait être d'autre? Donc tu vas aller chez le Cohen, on va revenir là-dessus, bien sûr. Vers Martha et Lav, et tu diras à ce Cohen, Higati hayom l'Hashem Elokecha, Ivati el haaretz asher nishba Hashem l'avotenu, latet lanu. Tu diras à ce Cohen en service, là, tu lui diras, voilà, je déclare aujourd'hui. Et à qui je le déclare? Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Je higati hayom la Hachem, dont je le raconte. Higati, c'est la chaîne Haggadah. Je raconte aujourd'hui à Hachem. Et au lieu de dire Elokeinu, il dit au Kohen Elokecha. Je raconte à Hachem ton Dieu. Mais ça veut dire ton Dieu, c'est pas le sien. Qui va-t-il? Je lui dis, voilà, je suis arrivé dans le pays qu'Hachem a juré de donner à nos ancêtres pour qu'il nous le donne à nous, en quelque sorte. Donc il a juré à nos ancêtres qu'il allait nous le donner. Donc, une espèce de déclaration. Et alors, lui, il est venu là avec son panier dans lequel il y a les prémices, donc les premiers fruits qui ont été produits. À ce moment-là, le Cohen prend le panier. Vilakach Cohen atene miyadecha. Il va prendre le panier, il va le poser littéralement devant l'autel, le Mizbéach, l'Hachem Elokecha. Hachem, ton Dieu. Ça, c'est Moshe qui parle au clan Israël, à chacun. Donc, Hachem Elokecha. En soi, on aurait pu poser la question dès le départ, dans la mesure où Moshe leur dit, quand vous arrivez dans le pays qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Est-ce que Moshe n'aurait pas dû dire, dans le pays qu'Hachem, notre Dieu, te donne? Disons qu'ils disent pas nous donne, parce que lui, il va pas entrer en Eretz Israël. Mais il devrait dire, quand il parle d'Hachem, il devrait dire, Elokeinu, Moshe. Quand tu dis Elokecha, c'est comme si c'est ton Dieu, pas le mien, quoi. Je crois que c'est ça. Toute cette histoire est un peu étrange. Alors, c'est Moshe parle à quelqu'un, à chacun dans l'Ibn Israël. et le dit Elokecha, comme si lui, pas. Ensuite, le juif qui amène son panier là, il parle au Cohen, il lui dit Elokecha, de nouveau, ton Dieu à toi et pas le mien, quoi. Bien sûr que c'est pas le, il faut pas dire le tien et pas le mien, mais pourquoi on dit Elokecha? Donc voilà, il va prendre le panier et il va le mettre devant le Mizbéar, devant l'autel d'Hachem, ton Dieu. Quelque part, d'ordinaire, sur le Mizbéar, on amène les corbanotes, c'est-à-dire on met la viande des bêtes qu'on a sacrifiées, ou on met un peu de commets, c'est-à-dire quand ce qui est donné, c'est une mincha. Le mincha, c'est une crêpe. Ouais. Il y a deux sortes de crêpes qui sont amenées au qu'on peut donner, qui en général sont des crêpes qui sont c'est une offrande de quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer une bête. Tout le monde n'a pas les moyens d'amener une bête. Bien, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider aussi, en certains cas, comme Corban, une crêpe. Et en vérité, de cette crêpe-là, quand on faisait la pâte pour faire la crêpe, on prélevait un tout petit peu de cette pâte, on prélevait autant qu'il y en a dans la paume de la main, si on érase avec le pouce et avec l'auriculaire. Donc, c'est pas grand-chose, quoi, ce qui est dans les trois doigts. Et ça, on le mettait sur le misbéach, et c'est ça qui, ça brûlait, et tout le reste de la crêpe était mangé par les Kohanim ou par les propriétaires. Exactement comme quand on amenait, quand c'était pas une holocauste, on amenait aussi un tout petit peu de la viande qui était brûlée sur le Mizbéar, et tout le reste de la viande de la bête était mangé par les Kohanim ou par les propriétaires du Korban. Donc là, il va. Ça, on posait sur l'autel, et en général, ce qui était sur l'autel, il y avait un foyer, donc ça brûlait. Là, il va pas les brûler, il met ça devant l'autel, il met pas sur l'autel, parce que mettait sur l'autel, tout serait brûlé, il le met devant. Et puis, à ce moment-là, ve'amita ve'amarta. À ce moment-là, tu littéralement amita ve'amarta. Normalement, amita, la anot, c'est répondre. Bon, c'est-à-dire quand vous répondez au téléphone, c'est amita. Tu as répondu au téléphone. La note de téléphone. Donc, le verset qui dit, tu répondras, ve amarta, et tu diras. Donc, il y a un problème si on dit on répond, et on répond à quoi? Si on répond, c'est qu'on a été interpellé, ou quelque chose s'est adressé à nous, et on répond. Alors, eux, par exemple, ici, ils ont traduit, tu parleras à voix haute. Parce qu'une des façons une des traductions possibles de ce mot Anita, c'est dire les choses à voix haute. Et tu diras devant Hachem ton Dieu, c'est toujours Moshe qui parle, bien sûr, et tu vas lui raconter toute une petite histoire. Tu vas lui raconter Arami Ovedavi, l'araméen. Un araméen a voulu perdre, c'est-à-dire tuer, quoi. Avi, mon père. Alors, a priori, cet araméen qui est l'araméen standard, c'est quelqu'un qui s'appelle Lavan, qui est donc le père, le frère de Rivka,
est le père de Rachel et de Léa, le beau-père de Jacob, lui qui a roulé Jacob. L'araméen a voulu tuer mon père. Avi, mon père. Alors, celui qui parle, il ne parle pas de son père. Il parle de son père. Qui est-ce son père? Qui l'araméen Lavan voulait-il tuer? C'est Jacob. Bon, parce que il a essayé de le tuer, il a essayé de le voler, enfin, il l'a volé tranquillement. Et quand Jacob s'est enfui avec ses enfants et que Lavan l'a rattrapé, il lui a dit, quand il est arrivé, il a dit, Yeshlel, il a dit, j'ai les moyens de te faire la peau. Seulement, ton Dieu me l'a interdit. C'est comme ça que Lavan a présenté les choses. Il voulait dire, moi, je voulais te tuer, quoi. Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. C'est bien de Jacob qu'il s'agit. Mais le lien entre il a voulu le tuer et il est descendu en Égypte, quand Laban a voulu tuer Jacob, Jacob n'est pas parti en Égypte à ce moment-là. Jacob, il est retourné chez lui. Vayagor Sham, et il a habité en Égypte, Lagour, oui. Bimsem At, ils étaient en petit nombre. Et quand ils sont descendus avec 70 personnes. La famille de Jacob qui descend en Égypte, c'est 70 personnes. Vahisham le Goy Gadol Atsum Bara. Et là-bas, en Égypte, ils sont devenus un peuple, un grand peuple, puissant, très nombreux. Les Égyptiens, ils nous ont fait du mal. Et ils nous ont fait faire des travaux difficiles. Vanitsak, donc ça c'est l'esclavage. Vanitsak et l'Hachem, Eloke Avoteinu. Et donc, Moshe lui dit, tu diras, tu vas répondre, tu vas dire à haute voix ce que je te dis là, ce récit-là, le Araméen, il voulait tuer mon père, mon père est descendu en Égypte. Et puis on n'était pas très nombreux quand on est descendu en Égypte. Et puis on est devenu très 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 puissant, un grand peuple. Et ils nous ont fait souffrir. Et on a crié El Hachem. On a crié on a crié au secours, quoi. On a appelé au secours. Hachem Elokei Avoteinu. Hachem le Dieu de nos ancêtres. Vaishma Hachem et Koleinu. Et Hachem a entendu notre voix. Vayar et Onyeinu. Et il a vu notre détresse, en fait. Vet Amaleinu, les efforts qu'on devait faire. Le travail, là, qu'on était astreint à faire. Betlachatzenu est la pression sur laquelle on vivait de la part des Égyptiens. Vayotzienu Hachem et Mitzrayim. Hachem nous a sortis d'Égypte. Biyad Chazaka Vezvan Tuya. Il nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et un bras étendu. Uvemora Gadol. Et avec une grande frayeur, c'est-à-dire il a créé une énorme frayeur chez les Égyptiens, et il a fait des signes et des miracles. Et il nous a amenés en ce lieu. Il nous a amenés à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Il nous a donné cette terre-là, Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Ve'ata, et maintenant, Iné Evetietreshit Priya Adama, Shanatatali Hashem. Et maintenant, du coup, il s'adresse vraiment à Hachem et il dit, voilà, maintenant, j'ai amené les prémices des fruits de la terre que tu m'as donnée, Hachem, mais alors voilà. Il dit, voilà, je les ai amenés, ils sont là. Ve'inachto, l'ifne Hachem Elokecha, et tu le poseras devant donc Hachem, ton Dieu, Vishtaravita, l'ifne Hachem Elokecha, et tu te prosterneras devant Hachem, ton Dieu. Et alors, Vesamarta, Becholatov, Hachem Natan Lecha, Hachem Elokecha, ou le Vetecha. Et tu te réjouiras avec tout le bien qu'Hachem t'a donné, Hachem, ton Dieu t'a donné, à toi et à ta maison, toute ta famille, tout. Et on précise, toute ta maison, et dans ta maison, il y aura inclus, sera un Lévi, aussi le Lévi, qui lui n'a pas de terre. Parce que je vous rappelle, les Léviim n'ont pas reçu au partage de la terre d'Israël entre tribus, les Léviim n'ont rien reçu, puisque eux, ils sont requis d'être toujours disponible pour le service d'Hachem. Eux, leur travail, leur job, c'est Beth Amikdash. Et du coup, ils ne sont pas libres pour faire, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et donc, on ne leur a rien donné à faire. Et du coup, eux, ils n'ont pas vraiment de terre qui produise des fameux fruits. Donc, tu te réjouiras et tu leur en donneras à eux aussi, aux Lévis. Et aussi, va guère, cher Bekirbecha, et aussi au converti qui est parmi vous, qui lui non plus n'a pas de terre, puisque par définition, on ne lui a pas donné de terre. Donc, voilà cette déclaration. Et puis cette obligation de se réjouir avec les bikurim, le terme pour désigner ces réchites, ces prémices, c'est bikurim. C'est la même racine que bechor, bet kafresh. C'est les premiers, bechor c'est le premier-né, bikurim, c'est les premiers fruits. Dans la paracha de Kitavo, il y a un texte absolument terrible, qui est un texte de 98 klalot, des malédictions en fait. Tout ce qui arrive quand le clan d'Israël ne se conduit pas bien. Et à la fin du texte, peut-être on va les regarder dans le texte. Vous allez moi le texte dit clairement que la raison pour laquelle les choses vont arriver. Bon, pourquoi tous ces ennuis, toutes ces plaies, tout ce qu'Hachem va t'envoyer, en fait, ce sera toujours parce qu'en réalité, tu ne t'es pas réjoui de tout ce qu'Hachem t'a donné. Normalement, on devrait se réjouir de tout ce qu'Hachem, c'est-à-dire la réjouissance, elle montre qu'on a apprécié tout ce qu'Hachem a donné. Si tu penses que c'est normal, etc., bon, tu vas pas te réjouir particulièrement. Et la Torah, elle dit, voilà, si tu te réjouis pas, c'est la preuve que tu apprécies pas, etc. Et donc, le service d'Hachem, il ne peut se faire que dans la joie. C'est-à-dire, la tristesse dans le clan d'Israël, c'est ce qu'on appelle un moum, c'est-à-dire c'est un défaut. Servir Hachem, si on prend conscience de ce qu'on est en train de faire, on ne peut que se réjouir. Un privilège de pouvoir servir Hachem. Alors, si toi, tu t'es pas réjoui, alors, tu auras tous ces ennuis-là. Et donc, on voit très bien hein, que ce qui est demandé, c'est pas seulement de faire des choses, de faire les mitzvot, mais de les faire d'une certaine manière. La manière en question, c'est de faire les choses avec simcha. Donc, en fait, toutes les mitzvot doivent se faire avec simcha. Alors, pourquoi est-ce que dans la mitzvah de Bikurim, on met tellement l'accent sur la simcha? Pourquoi est-ce que c'est dit dans la mitzvah de Bikurim que tu te réjouiras, etc.? On voit ici que la simcha, elle fait partie de la mitzvah de Bikurim. Quand on amenait le Bikurim, on amenait ça de façon extrêmement festive, avec beaucoup de joie, avec de la flûte, etc., des décorations, etc. Ceux qui pouvaient mettaient les prémices dans la Torah, c'est écrit un panier. Mais ceux qui pouvaient, ils les mettaient dans des objets en or ou en argent. Mettre ça en évidence, quoi que. Chantait, lui me chantait, accompagnait, etc. Chazal disent, en passant que c'est marqué Ve'ata, Hine, Heveti, ce qu'on a lu ici, maintenant voilà, j'ai amené les prémices. Chazal disent, le Hine, Besimcha. Hine, voilà, voici. C'est une chose nouvelle, quoi, quelque part, Simcha. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la mitzvah de Bikurim, elle exige une Simcha toute particulière, plus que les autres mitzvahs, toutes les mitzvahs doivent se faire avec Simcha. Par exemple, même quand on amène des korbanot, c'est aussi une façon de faire des cadeaux à Hachem. On pourrait se dire, voilà, le privilège de pouvoir faire des cadeaux à Hachem. Hachem accepte mes cadeaux. Ça doit me mettre en joie. C'est vrai, tu dois te réjouir. Mais c'est pas marqué du tout, tu dois te réjouir comme c'est écrit dans les Bikurim. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les Bikurim qui exige une simcha particulière? En vérité, dans le Midrash Rabbah, il est dit au sujet de la mitzvah de Bikurim, le dit Bishrut, par le mérite de Shloshat Dvarim, Nivra Haolam. Il y a trois choses qui sont suffisamment importantes pour qu'elles justifient la création du monde. Et une des choses, c'est Bishrut Bikurim, par le mérite des Bikurim. Le fait d'apporter les Bikurim, c'est une justification pour la création du monde. Chazal demande Ma'atam. Pourquoi c'est si grave? C'est important. Marqué Bereshit bara Elokim, etc. Ve'en Reshit el Bikurim. Le mot Reshit, premier, commencement, c'est un mot qui est utilisé, Reshit Bikurei Admatra, qui va amener les prémices, je traduis par prémices le mot Reshit, des premiers fruits donnés par ta terre. Mais ça nécessite quand même une explication. Quelle est l'importance de la mitzvah de Bikurim au point qu'elle justifie qu'on crée le ciel, la terre et le monde? Ce que je vous raconte là, c'est le Rav David Hofstetter, le créateur de l'Irshu. Il dit, il faut aussi comprendre le contenu de ce qu'il racontait il amène les Bikurim. Pourquoi cette déclaration Arami, Ové Davi, l'Araméen voulait tuer mon père, etc. On raconte ta vie, quoi. Quand on dit Arami Ové Davi, c'est une louange pour Hachem. L'Araméen voulait me tuer, mais Hachem m'a sauvé. C'est ce que Laban lui-même dit. Yeshleel y a dit. C'est-à-dire, en vérité, j'ai une armée suffisante pour te tuer, mais je ne peux pas le faire parce que ton Dieu me l'a interdit. Donc, c'est Hachem qui a sauvé Yaakov des mains de Laban. Dans la suite du récit, on dit aussi qu'Hachem nous a sauvé les Égyptiens. Nous a sorti des Égyptiens qui nous ont réduits en esclavage. Et pour ce faire, Hachem a fait des miracles, des trucs extraordinaires. Et puis, à ce moment-là, on remercie Hachem de nous avoir donné cette bonne terre d'Israël. Toutefois, alors que le lien des nissim, des miracles de la sortie d'Égypte, avec cette situation-là, bon, ce lien-là, il est compréhensible avec le fait qu'il amène maintenant des bikurim. Parce que c'est bien grâce aux miracles qui ont été faits pour nous sortir d'Égypte, qu'on peut être là aujourd'hui et apporter des bikurim. Par contre, la démarche de Lavan, c'est autre chose, semble-t-il. Quel est le lien avec le fait d'avoir été sauvé des mains de Lavan et le fait d'amener des bikurim? Puis d'autre part, il faut aussi s'arrêter sur le fait que La déclaration, elle commence Arami Oved Avi. Et vous savez bien que quand on commence à dire Arami Oved Avi, on a le goût des matzot déjà dans la bouche. D'accord? C'est un texte qu'on dit dans la Agada de Pessah. Qu'est-ce que ça, le lien de la soirée du Seder, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Soirée du Seder, c'est une soirée qui est consacrée à raconter effectivement tous les miracles qu'Hachem a fait pour nous sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'Hachem a sauvé Yaakov des mains de Laban? Alors pour expliquer tout ça, il dit qu'il veut réfléchir un peu sur la mitzvah de Bikurim. Ça consiste donc à prendre des fruits, les premiers fruits produits par la terre d'Israël, et les amener au Beth Amikdash. Mais à ce même moment, en réalité, qui est en quelque sorte le début de la période des moissons, enfin, au début de la période, ça dépend de ce qu'on amène, début de la période des moissons, des vendanges, début de... Mais on ne sait pas du tout, au tout début, comment vont évoluer ces premiers fruits? Il y a un tout petit fruit là qui commence, là, un tout premier, mais est-ce qu'on a une idée de ce qui va se passer par la suite? On n'a aucune idée. Or, on sait très bien que on est exposé à toutes sortes de dangers, un coup de froid, un coup de chaud, un coup de... Les animaux, etc. Tout ça peut faire échouer complètement toute la récolte. Par conséquent, ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'on exprime notre confiance en Hachem. J'amène les premiers et je remercie, en vérité, comme je serais peut-être, je comprendrais mieux que je remercie quand, tout à la fin, quand on a, voilà, j'ai devant moi toute la récolte, ça a bien marché, etc. Les raisins sont là, on va les mettre au pressoir, etc. À ce moment-là, on comprend bien qu'on remercie. Et quand tu remercies au tout début, il y a une dimension de bitachon, il y a une dimension de confiance en Hachem. J'ai confiance que ce que je vois, ce que j'ai devant moi, et le début de quelque chose qui va bien tourner, quoi, finalement. Ça veut dire, je fais un récit qui est entièrement une expression de ma reconnaissance pour tout ce qu'Hachem a fait, au moment où je suis non pas en train de récolter les fruits, mais au moment où j'ai le tout premier fruit qui commence. Je suis au tout début de l'année agricole, si on peut parler comme ça, la production, et je fais un récit qui remercie pour tout le passé, alors que je suis au futur, je suis sur le seuil du futur. Donc ça veut dire que la kavana de cette mitzvah, c'est un dévoilement de ma confiance en Hachem. Et en quelque sorte des remerciements à Hachem sur toute la parnassa, tout ce qui va venir par la suite. Et on me demande
d'être dans le même état de simcha que celui dans lequel je serai quand j'aurai devant moi toute ma récolte. Sukkot est appelé Zman Simchatenu, le temps de notre joie. L'obligation d'être en joie, elle est à Pessah, elle est à Shavuot. Pourquoi ce Simcha, c'est Sukkot qui est Zman Simchatenu? Parce que Sukkot, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est les dernières. On a fini les vendanges. Entre-temps, on a fini aussi les récoltes de toutes sortes, de tous les autres fruits, de toutes les céréales, etc. Donc maintenant, voilà, mon grenier est plein. Et à ce moment-là, on te dit, ben, réjouis-toi avec Hachem, invite le Lévi, l'étranger, etc., à se réjouir avec toi. Et le paradoxe ici de cette mitzvah de Bikurim, c'est que la joie, elle t'est demandée au début et pas à la fin. Enfin, c'est pas qu'il ne doit pas se réjouir à la fin, mais à la fin, on comprend assez bien pourquoi on se réjouit. Mais se réjouir de la même manière au début qu'on se réjouira à la fin. Et c'est pour ça que les bikourim, d'une certaine manière, c'est plus que ça, ça génère, ça demande plus de joie que les korbanot. Pourtant, c'est comme un korban. C'est quelque chose que j'apporte à Hachem. Tous les dons qu'on fait à Hachem, ils se donnent toujours quand on a les choses devant soi, quand après, c'est-à-dire la trouma que tu vas donner au Cohen, tu la donnes pas, on donne pas la trouma sur les bikourim, on donne la trouma sur quand on a terminé la récolte, on a moissonné, on a transformé ce qui devait se transformer, on a mis en tas, etc. À ce moment-là, on vient prélever la trouma. On va donner au Cohen. Le maaser qu'on va donner au Lévi. Et le deuxième maaser qu'on va donner éventuellement aux pauvres. Etc. Tout ça, ça se fait quand on a déjà tout devant soi. Alors que les bikourim, c'est alors qu'on n'a quasiment rien devant soi. Donc l'homme, ici, manifeste sa confiance en Hachem. C'est-à-dire, confiance que les autres fruits sortiront aussi bien que les beaux fruits que j'ai amenés, qui sont les prémices. Le Maharam Banet, dans ses drachot, c'est un acharon. Il a expliqué avec ça un passouk dans Tehilim. Dans Tehilim, c'est marqué, Vani bechazdecha batarti. Moi, dans ta générosité, j'ai eu confiance. Yagel libi bishuatecha. Mon cœur va exulter quand tu nous sauveras. Ashir al Hashem, je vais chanter pour Hashem qui gamal alay. Hashem m'a déjà tout donné, quoi. Gamal, c'est le gmilut chassadim. Il m'a prodigué toutes ses bontés. David HaMelech, à ce moment-là, il espérait le salut d'Hashem. C'est marqué, comme il dit, Vani bechasdecha batarti. Moi, j'ai eu confiance dans ta générosité, dit-il à Hachem. Mais, il dit, mais, effectivement, j'ai confiance que ça sera bien. Mais, je me réjouis déjà avec ce salut, en fait. Yagel libi bishuatecha. Mon cœur, maintenant, il exulte de ton salut, hein, du fait que tu vas me sauver. Ashira al Hashem, c'est un futur.
Je chanterai pour Hachem parce qu'il était certain, David était certain, il faisait confiance à Hachem. Donc dans le ici, un état de bitachon qui est tel que c'est comme si je l'avais. Ça veut dire que il existe des états de confiance dans lesquels il y a peut-être des gens avec lesquels vous savez, vous êtes en relation et de confiance, qui est que si la personne vous dit je ferai ça, pour vous, c'est comme si c'était déjà fait. En vérité, la pleine confiance, ce serait ça. Si je fais absolument confiance à quelqu'un, quand il m'a dit je vais le faire, c'est comme si c'était fait. Sauf qu'il y a peut-être des aléas qui ne dépendent pas de lui, mais a priori, si ça dépend de lui, c'est comme si c'est fait. Et je peux me réjouir déjà maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre que la chose soit faite pour lui faire confiance. Maintenant, avec ça, on peut comprendre cette simcha extraordinaire qu'il y avait quand on amenait les bikourim. Puisque le fondement de cette simcha, de cette joie, en fait, c'est le sentiment de confiance absolue qu'il y a en Hachem. Comme un enfant, comme un nourrisson qui est dans les bras de sa mère, il a entièrement confiance en elle. Alors, comme en réalité, tout ce qu'Hachem fait pour nous, c'est pour notre bien, donc normalement, on doit toujours être le Simcha. Y compris lorsque les choses ne vont pas comme on pense qu'elles auraient dû aller, mais je sais que c'est pour mon bien, parce que Hachem ne veut que mon bien. Et à ce moment-là, c'est le bien, je le vois pas encore demain, tout de suite. Je le verrai peut-être pas immédiatement, je le verrai peut-être pas dans 3 mois ni dans 10 ans, mais je sais que je le verrai. Alors, on comprend ainsi pourquoi cette mitzvah est tellement importante qu'elle, en fait, elle justifie à elle toute seule la création du monde, c'est ce qu'on a vu. Parce que c'est l'expression d'un bitachon, d'une confiance absolue en Hachem, dans tous les domaines. Quand on arrive à ce niveau-là, alors, on amène en fait, d'une certaine manière, le monde à son but. Puisque une des raisons pour lesquelles Hachem a créé le monde, c'est que les créatures aient confiance en Hachem. Confiance. Donc quand effectivement on manifeste cette confiance en Hachem, on accomplit la volonté d'Hachem et d'une certaine manière, la raison pour laquelle il a créé le monde. Donc on voit que le monde mérite de durer pour cette, enfin d'exister pour cette mitzvah de Bikurim. Puisque en accomplissant cette mitzvah, le monde arrive à son tachlit, il arrive à son but, finalement.
Bon,
Oui.
alors maintenant, il faut revenir sur Laban. Bon, qu'est-ce que Laban, l'histoire de Laban avec Jacob, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Pourquoi est-ce que on a inclus le problème de, enfin, le sauvetage de Jacob, qui a été sauvé des mains de Laban, avec le sauvetage des Bnei Israël en Égypte, qui sont sortis d'Égypte? En fait, cette reconnaissance, l'expression de cette reconnaissance, reconnaissant pour le fait qu'Hachem a sauvé Yaakov des mains de Laban, c'est en réalité une reconnaissance de des nissim. En Égypte, il y avait toutes sortes de nissim visibles, toutes sortes de miracles visibles. Les 10 plaies, c'est des miracles visibles. Ici, le fait qu'Hachem sauve Yaakov des mains de Laban, c'est un miracle, mais c'est pas un miracle visible. On n'était pas là quand Hachem a dit à Laban, je t'interdis de lui parler, mitov ve'adra. Alors, le Gaon explique que quand on lit le texte Arami Ové David, c'est pas simplement le récit de ce qui s'est passé. Laban voulait tuer. Et là, dit le Gaon, c'est Giloui, qui Kavanat Laban Haïta le Ra'a. Ce verset, il nous dévoile que Laban voulait le mal. Parce qu'en vérité, on le voit pas dans ce qu'il voit. Il dit, mais pourquoi? Il dit à Yaakov, mais pourquoi est-ce que tu es parti en cachette? Si tu me l'avais dit, on aurait fait des fêtes, on vous aurait accompagné, etc. Tu parles. Ouais. Exactement le contraire de ce qu'il dit vouloir le bien, c'est le contraire. Il a quand même beaucoup aussi nissim glouim. Et il fait aussi l'inissime historique. Hachem fait des miracles visibles et il y a aussi des miracles invisibles. Il nous sauve des mains de nos ennemis qui ont toutes sortes de projets de nous détruire, mais nous n'en savons rien. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont fait confiance, ils sont arrivés au grand niveau de confiance en Hachem. Parce que sinon, ils seraient pas, ils auraient jamais suivi. Il faut être complètement cinglé pour suivre Hachem dans le désert. Ça veut dire, quoi, tu nous amènes crever dans le désert. Vaut mieux rester en Égypte. Ils n'avaient aucune idée, les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, ils n'ont aucune idée de la façon dont ils allaient survivre dans le désert. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas du tout survécu d'une manière, disons, pensable quand ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas penser comment on va survivre là. C'est un peuple. Ben, où est-ce qu'on aura du pain et de l'eau? Et sans savoir du tout ce qui allait se passer dans le futur. Simplement, à ce moment-là, ceux qui sont sortis, ils ont fait confiance à Hachem. Il y a un passouk dans le Navi Yirmiya qui est très connu, où Hachem dit, Zachar tilach, je me souviens en ta faveur, Klal Israël. Zachar tilach chesed neuraïch, la générosité dont tu as fait preuve dans ta jeunesse. L'Echter, tu m'as suivi, Acharai, Bamidbar. Tu m'as suivi dans le désert. Béretz, dans un pays où on peut pas, il y a rien de, il y a rien à ensemencer, rien du tout. Hachem dit au clan d'Israël, par la bouche de Yirmiyah, le prophète Jérémie, donc, dis-je, c'est un mérite que je prends en compte, encore aujourd'hui, au temps d'Yirmiyah, pour le clan d'Israël. Ce moment-là où vous m'avez suivi à la naissance du peuple juif, en fait. En quelque sorte, le peuple, il a expérimenté ce bitachon, cette absolue confiance, donc, avec l'image qu'on a donnée avant, de la même manière qu'un nourrisson fait confiance à sa mère. Le clan d'Israël, il a fait confiance à Hachem, qu'il a pris en charge complètement. Donc, ça va très bien, c'est-à-dire que on peut pas commencer la vie sans faire confiance. Au début, on est obligé de faire confiance parce que le propre de l'être humain, en particulier, c'est qu'il est incapable de se prendre en charge. Donc, il est un bébé. Il y a des animaux qui peuvent très vite se prendre en charge. Le petit homme, il met très longtemps jusqu'à ce qu'il puisse se prendre en charge. La raison pour laquelle le soir du Seder, qui est le soir de la manifestation de la Emouna, le soir du Seder, ça s'appelle, c'est un Lel HaEmouna. Le soir du Seder, en quelque sorte, on cultive, on enracine en nous, dans notre cœur, dans le cœur des enfants, ce sentiment de joie et de confiance en Hachem. Et ce, même quand le futur n'est absolument pas certain. Quelle que soit la situation, on a l'obligation de mentionner ce sauvetage-là. Le sauvetage de Yaakov des mains de Laban. Il faut aussi rendre grâce à Hachem pour cela. Pourquoi? Parce que, en faisant ça, on introduit en nous ce savoir, je sais, quand je beaucoup fais d'énissime avec nous, comme on dit dans la Amida, dit, tu fais d'énissime, à tout moment, Hachem fait pour nous d'énissime. Du coup, ça développe vraiment le bitachon. Et donc la joie, réjouis avec Hachem, puisque quelque part, à ce moment-là, on pourrait dire, on est déjà arrivé. Parce que dans Hachem, on peut faire entièrement confiance. Et puisque Hachem nous a dit des choses, et qu'on sait qu'il fait des miracles, pourquoi il faut savoir qu'il fait des miracles? Parce qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles on ne comprend pas du tout comment
ça peut aller dans le bon sens. Une citation qui ont l'air d'être impossible. On ne peut pas réussir. Mais on sait que des miracles, Hachem en fait. Ah, il fait plus de miracles visibles, mais des miracles invisibles, il en a toujours fait, il en fait toujours. Issecha, comme on dit dans la Amida, Issecha, bechol yom imanu. T'es nissim, que tu fais tous les jours avec nous. Même dans le fonctionnement du monde, ou le fonctionnement du corps humain, etc., on voit très bien combien de nissim il se passe à chaque instant. C'est pas quand les choses se jouent au nano ou au picot, etc. Et puis ça se passe. Donc on comprend bien pourquoi est-ce qu'il faut remercier en quelque sorte Akadosh Baruch Hu pour le sauvetage de Yaakov des mains de Laban au moment où on amène les Bikourim. Parce que quand j'amène les Bikourim, il y a une expression de ma grande confiance, la confiance du juif dans son créateur, puisqu'il remercie déjà maintenant alors qu'il n'a encore rien vu. Donc, à ce moment-là, il faut remercier Hachem et il faut dire sa louange sur le fait que il a sauvé Yaakov des mains de Laban. C'est-à-dire que, en fait, il sauve les descendants de Yaakov en permanence. Même si les choses ne sont pas visibles. De la même manière que c'était pas visible que Laban, que Hachem nous a sauvés des mains de Laban. Et comme ça, on peut comprendre un peu le minhag dans certaines communautés où on fait passer le plat du seder sur la tête des gens. Au moment justement où on dit Arami Oved Avi, au moment où on dit ce même verset que l'araméen voulait tuer mon père. Parce que c'est un peu la même chose que de balancer les bikourim devant Hachem. Parce que la nuit du Seder, comme au moment des bikourim, nous reconnaissons devant Hachem, reconnaissons, exprimons notre reconnaissance à Hachem, et on se réjouit des nissim qu'Hachem a fait avec nous, et on a confiance, confiance absolue en lui. Donc on voit que cette paracha de Bikurim, elle nous donne des éléments fondamentaux dans la Emouna, dans la confiance en Hachem, des éléments très très élevés, absolument fondamentaux. Et ça, ça clarifie en quelque sorte notre obligation d'essayer d'être à ce niveau de confiance en permanence. C'est-à-dire de s'en remettre à Hachem. Je m'en remets à Hachem. Voilà ce qu'on peut dire sur eux, enfin, quelque chose qu'on peut dire sur les Bikourim. Mais dans la paracha, dans cette paracha de qui Tavo, il y a un autre verset, il y a aussi un verset, une autre déclaration en quelque sorte. C'est ce qui s'appelle Vidui Maaser. Alors, c'est le verset 15. le chapitre 26, donc. On a vu ce qu'on a raconté sur Bikurim, c'est la première montée, quoi. C'est ce qu'on lit quand le Kohen est appelé. Ce qu'on lit quand on appelle le Lévi, la deuxième montée. Alors, il y a toutes sortes de prélèvements qu'on doit faire quand on a récolté. Y a la Trouma pour le Kohen, Maaser pour le Lévi, Maaser Sheni qui doit être mangé en Eretz Israël, à Yerushalayim, ou bien Maaser Ani, distribuer une dîme, distribuer aux pauvres. Et alors, le Passouk ici, il dit, on est le verset 12 d'abord, ouais. 12, ouais. Qui te chalait la serre, et kol maaser tevuatcha bashana hashlishit shnat hamaaser, c'est lorsque tu auras terminé de tous les prélèvements, toutes les dîmes de la récolte de la troisième année. C'est l'année où on donne l'année de la dîme. Alors tu donneras au Lévi, aux convertis, à l'orphelin, à la veuve. Tu leur donneras à manger et ils doivent être rassasiés ainsi. Donc, tu vas les prendre en charge. Et là, de nouveau, ça c'est, Ve'amarta, et tu diras devant Hachem ton Dieu, bi'arti kodesh minabait. Tu feras ces déclarations, tu dis, j'ai fait disparaître toutes les choses sacrées de la maison. Ça veut dire, tout ce que je devais donner au Cohen, au Lévi, et ça, je l'ai donné. Je me suis acquitté de tout ce que je devais donner, j'ai tout donné. Et j'ai aussi donné, comme m'a demandé, au Lévi, aux convertis, à l'orphelin, à la veuve. Je vais donner conformément à la loi que tu m'as donnée. Loi Bartim, j'ai pas transgressé tes commandements et j'ai pas oublié de donner à qui je devais donner. Loi Khalti Beoni Mimenu, Blobiartim Menu Betame, Shamati bekol Hashem Elokai, asiti kol asher tzivitani. Je n'ai pas à manger lorsque j'avais pas le droit de le manger. J'étais en deuil, par exemple. J'ai pas mangé les choses qui avaient de la kdusha, de la trouma quand j'étais impur, par exemple. Et j'en ai pas donné pour les besoins d'un mort, etc. J'ai écouté la voix d'Hashem, mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Déclaration de celui qui est bien sûr de lui, quoi. Et alors, il dit, puisque moi j'ai fait ce que je devais faire, que tu m'as demandé, alors, Ashkifa mimon kotshecha min hashamayim, Eretz. Alors maintenant, à toi de jouer. Donc, regarde, observe, depuis ta sainte demeure, depuis le ciel, et bénis ton peuple Israël, et bénis aussi la terre que tu nous as donnée, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel. Donc, ici, de nouveau,
là aussi une espèce de une déclaration. J'ai fait ce qu'il fallait, à toi de jouer, quoi, quelque part. C'est curieux comme comme démarche. Alors, évidemment, comme les deux sujets sont juxtaposés, les Bikurim et puis l'histoire des Maaser, là, ces deux déclarations, comment se fait-il que ce soit seulement dans Maaser qu'il y a une bénédiction, une demande de bénédiction, quoi, à toi de jouer maintenant, béni, etc. Pourquoi on ne demande pas la même chose dans le, pourquoi il n'y a pas de prière dans les Bikurim? On aurait pu faire à la suite des Bikurim, demander à Hachem, bénis le peuple, bénis le pays, etc. Donc, il y a ces deux sujets et bah, évidemment, c'est les différences qui nous intéressent. Pourquoi il n'y a pas de bénédiction demandée après les Bikurim alors qu'il y en a une qui est demandée après le Maaser? En vérité, il y a une grande différence entre les deux sujets. C'est que le vidouille de Maaser, il se termine justement avec ses... cette demande de bénédiction. Ashkifa, c'est-à-dire, regarde, Mimeon Kotchecha, à partir de ta sainte demeure, en fait, regarde depuis le ciel et bénis et Amcha et Israël. Alors que quand on regarde les Bikurim, il n'y a pas du tout de Tfila ou de Bakasha. On va essayer de voir pourquoi il n'y en a pas. Alors que il y en a pour Maaser. On aurait dit, j'ai d'abord commencé par citer une Gemara dans Brachot. Une Gemara très connue. C'est une Gemara qui parle de l'obligation de faire une bracha avant de consommer quelque chose. Alors la Gemara, elle voulait apprendre cette obligation de faire une bracha avant la consommation, par Kal Vachomer de Birkat Hamazon. Dans la Torah, en deuxième paragraphe du Shema, on a la source du Birkat Hamazon. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'erachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, et quand tu seras rassasié, tu béniras Hashem. Ça, c'est Birkat Hamazon. C'est la prière après avoir consommé. Donc la Gemara, elle voulait faire un Kal Vachomer. Elle voulait dire, si quand je suis rassasié, je bénis Hachem, et quand je suis affamé et que Hachem me donne à manger, je devrais à plus forte raison le bénir. Là-dessus, il y a un Tosfot qui dit que c'est pas vraiment un Kal Vachomer. Parce que l'obligation du Birkat Hamazon, de faire la bracha après la consommation, c'est une obligation minatora. C'est comme on l'a dit, je vous ai cité le passouk. Alors que l'obligation qu'on veut déduire d'une bracha d'avant la achila, c'est seulement un des Rabbanan, c'est les Chachamim qui ont imposé ça.
Alors, il dit, je vais essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas un calvaire complet. Qu'est-ce que ça change dans le calvaire? Ce calvaire, en quoi est-ce qu'il est différent d'un calvaire ordinaire? Oui. Je veux dire que dans ce qu'il appelle Birkat Hanehelim, c'est-à-dire la bracha avant la consommation de quelque chose, en fait, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a le fait que on remercie Hachem pour la nourriture qu'il nous a donnée. Deuxièmement, on exprime notre reconnaissance du fait que tout appartient à Hachem. Le monde entier appartient entièrement à Hachem. Comme on dit, la Hachem Haaretz Umloa. Comme on dit dans Tehilim, la terre, elle appartient à Hachem, elle et tout ce qu'elle contient. Et du coup, ça veut dire que nous pourrons bénéficier de la terre, ben, il faut qu'on demande la permission au proprio. Et le proprio, c'est la terre, c'est Hachem. Donc, dans la bracha, il y a aussi une demande de permission de jouissance. Qu'effectivement, Chazal dit que Kolanéné Minaolam Azé Blobracha, celui qui jouit du monde, de ce monde-ci, sans faire de bracha, il vole Hachem. Donc on voit que la bracha, c'est en fait une demande de permission, une permission de consommer. Et encore, dans la bracha, il y a encore que il faut veiller à ce que l'homme, quand il sera rassasié, il n'en vienne pas à se révolter contre Hachem. Comme c'est marqué dans le passouk, Pen tochal vesavata, de peur que tu vas manger, tu vas être rassasié, rom le vavro, et donc tu vas devenir orgueilleux, veshachar et tu vas en oublier Hachem. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'Hachem. Car, pour cette raison, il faut faire une bracha pour mentionner, rappeler à l'homme que tout appartient à Kadosh Baruch Hu, et que ainsi, ils n'en viennent pas à se révolter contre Hachem parce que maintenant je suis rassasié, j'ai plus besoin de lui. Ce qu'on veut, c'est Vezacharta et Hachem Elokecha, Yuanoten Chakoach Lasotre. Tu te souviendras d'Hachem ton Dieu parce que c'est lui qui te donne la force de faire tout ce que tu fais. Donc, avec ça, on comprend pourquoi, on comprend un peu mieux ce Kal Vachomer, ce raisonnement par Kal Vachomer. Quand on dit que si on fait une bracha quand on est rassasié, alors à plus forte raison quand on est affamé, c'est pas vraiment un Kal Vachomer. Parce que c'est vrai que l'obligation de reconnaître, d'être reconnaissant à Hachem, donc l'obligation de faire une bracha à ce titre-là avant de manger, c'est vrai que quand l'homme a faim, il ressent mieux le besoin donc de manger, le besoin, il ressent sa dépendance d'Hachem, qui est celui qui va lui donner à manger. Mais d'un autre côté, à cause du problème de l'orgueil qu'il pourrait y avoir, le fait qu'il va oublier Hachem, etc., alors l'obligation de bénir avant, elle est plus petite que l'obligation de bénir après, puisque c'est seulement quand on a mangé, qu'il y a le risque de l'orgueil et de se révolter contre Hachem. Donc ça va pas dans le bon sens par rapport au calvaire romain. Et donc, la prière qui vient après être complètement rassasiée, elle a une qualité particulière, c'est que Kacher Chaser l'Adam Davar, c'est que quand quelque chose manque à l'homme, alors il lui est facile de reconnaître que les choses elles viennent d'Hachem et que tout vient de lui. À ce moment-là, il lève les yeux vers Hachem et il demande à Hachem de lui donner ce qui lui manque. Mais quand on est rassasié, quand on a tout, si même on se révolte pas, comme on a dit qu'il y a bien sûr risque. Mais comme néanmoins, on peut quand même oublier un peu qui est-ce qui nous donne les choses. On ne va pas se poser de questions. Je suis bien, j'ai besoin de rien. Donc, au moment où l'homme fait ce vidouï maaser, il reconnaît voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai donné tout ce que je devais donner, etc. Il faut qu'il prie tout de suite, Hachem, parce que il faut par là qu'il montre que même quand effectivement la récolte et la moisson elle est dans son grenier, elle est là chez lui, et qu'il lui manque rien du tout, il sait qu'en vérité il n'a rien à lui, parce qu'en un rien de temps tout ça peut disparaître. Et toute la bracha, c'est une bracha. Tout ce qu'il a, c'est le produit d'une bracha qu'Hachem lui a envoyée. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans les brachot avant la consommation. C'est bien qu'au moment de cette bracha, avant la consommation, l'homme va prier Hachem, mais il reconnaît que la nourriture, elle vient d'Hachem. Néanmoins, dès qu'il a mangé, quand il est rassasié, donc, alors il faut qu'il prie et qu'il demande qu'Hachem lui donne par la suite, lui donne la parnassa, lui donne des mezonot, lui donne sa nourriture. C'est-à-dire alors qu'on pourrait dire, mais maintenant, tu n'as pas besoin de te soucier de ta nourriture. T'as le ventre plein, alors bon, maintenant ça va, tu te mets sur la réserve, et pendant un certain temps, t'as besoin de rien. Mais là, il faut savoir que, comme on dit dans le livre d'Amazon, Roénou, Zounénou, Parnessénou, Chalkelénou, et s'il te plaît, ne nous amène pas dans une situation où on va être dépendant de quelqu'un d'autre qui va nous donner. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est toi qui nous donne directement. Ça veut dire, même au moment où j'ai pas besoin immédiatement, mais pour être sûr qu'au moment où je semble avoir besoin de rien, alors, on te dit, non, non, mais il faut que tu te souviennes et que demande à Hachem de continuer de te donner en quelque sorte. C'est comme si on disait à Hachem, tu m'as donné, ben, donne encore. Ça, c'est fondamental. Si tu ne demandes pas, alors c'est comme si tu avais déjà oublié qui te l'a donné. Voilà, on va rester là.
Merci beaucoup, Rav.
Merci.